L'enfer comme refus définitif de Dieu. Voilà maintenant quelques heures que nous marchons vers Chartres, et ce pèlerinage est une occasion unique de nous concentrer sur l'essentiel. Au soir de notre vie, lorsque nous paraîtrons devant le Christ, nous serons jugés. Sur quoi portera ce jugement ? Sur l'amour. Si nous sommes morts dans la charité, si notre âme est en état de grâce, nous entendrons cette parole de Jésus. Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En revanche, si par malheur nous mourons en état de péché mortel, sans nous être repentis et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, cette sentence terrible se fera entendre. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. Et alors Jésus enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jettera dans la fournaise ardente. Introduction. Cher pèlerin, oui, l'enfer existe. Et oui, si je ne prends pas au sérieux les avertissements du Christ, si je persévère dans mon péché, si je refuse d'aller me confesser, alors cette phrase de Jésus m'est directement adressée. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. En enfer, il n'y a que des volontaires, c'est-à-dire des personnes qui ont refusé d'accueillir la grâce du Christ. À tout homme est offerte la possibilité d'emprunter le chemin qui mène à la vie éternelle. Cher pèlerin, te voici à la croisée des chemins. Un choix s'offre à toi. Avec la grâce de Dieu, gravir le chemin escarpé qui mène au ciel, ou bien, en refusant cette grâce, s'engager sur l'autoroute du péché qui conduit en enfer. Et puisque la méditation des grandes vérités de notre foi contient une grâce de conversion, je te propose de méditer sur ce qu'enseigne la foi catholique au sujet de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer ? L'enseignement de l'Église. Vous connaissez sans doute la célèbre chanson de Michel Polnareff qui chantait dans les années 60 « On ira tous au paradis ». Le drame est que cette opinion est désormais très répandue et qu'on la trouve enseignée parfois chez certains théologiens. Il faut donc avoir les idées claires sur le sujet. Voici ce qu'affirme le catéchisme. L'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. Pour bien comprendre cet enseignement, je vous propose de tordre le cou à quelques interprétations fausses de cette doctrine. Réfutation de quelques doctrines hétérodoxes. L'enfer existe, mais il est temporaire. Cette idée remonte au premier siècle de l'Église. On la trouve chez Origène, un auteur du IVe siècle. C'est la doctrine de l'apocatastase, mot très chic à passer dans un dîner. À la fin du monde, Dieu, par sa toute-puissance et sa miséricorde, détruit l'enfer et sauve les damnés de leur peine éternelle. Cette doctrine a été condamnée par le pape Virgile au IVe siècle. L'éternité de l'enfer est une conséquence directe de la gravité du péché mortel. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours et sans retour. L'enfer existe, mais il est vide. Cette idée est malheureusement assez répandue, même chez certains théologiens catholiques. Elle s'exprime dans le slogan « Espérer pour tous ». Selon cette opinion, les paroles terribles de Jésus sur la géhenne, les ténèbres extérieures, le feu éternel, sont en fait des menaces pédagogiques pour nous inciter à bien agir, mais dans les faits, ces dernières ne seraient jamais mises à exécution. Comment répondre à cette objection? L'Église, il est vrai, n'a jamais procédé à des sortes de canonisation à l'envers, en enseignant que telle personne est en enfer. Mais les mises en garde de Jésus supposent la réalité du danger. Sinon, on réduit la prédication du Sauveur à un simple procédé destiné à faire peur, un peu comme une menace agitée par des parents sans que ces derniers aient la moindre volonté de la mettre à exécution. Si tu n'es pas sage, je te laisse tout seul à la maison pendant toutes les vacances. Cela signifierait que Jésus aurait choisi d'utiliser une sorte de mensonge utile, ce qui n'est pas digne de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Non, en vérité, la possibilité de la damnation est une possibilité réelle, et le fait que certaines âmes aillent en enfer est une vérité qui appartient à la doctrine catholique. C'est d'ailleurs ce que confirme la Sainte Vierge aux voyants de Fatima en leur permettant de voir les souffrances atroces des âmes damnées. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs ? Comment peut-on aller en enfer ? L'enfer est cet état de séparation définitive avec Dieu. La seule façon d'aller en enfer est donc de se séparer de lui et de mourir dans cet état de séparation. Or, nous sommes tous unis à Dieu par la charité théologale déposée dans notre âme au jour de notre baptême. Cette vertu nous donne d'aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes. Le péché mortel. La seule façon pour l'homme de perdre la charité, et donc de rompre cette union surnaturelle avec Dieu, est de commettre un péché mortel. Péché qui porte bien son nom, il fait mourir en nous la vie divine de la grâce. Saint Jean-Paul II le définit ainsi. Nous appelons péché mortel l'acte par lequel un homme, librement et consciemment, refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité créée et finie, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Le péché mortel est amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, ou en termes moins théologiques, jouir sans entrave, plutôt que donner sans compter. Pour qu'il y ait péché mortel, trois conditions doivent être réunies. 1. L'acte posé doit être objectivement grave. 2. Il doit être fait en pleine connaissance. 3. Et de façon volontaire. L'enfer ou le péché mortel éternisé. Le péché mortel est donc un acte libre par lequel je place ma fin dernière, le but de mon existence, dans une créature, généralement moi-même. Or, en agissant ainsi, je crée une sorte de monde parallèle, car en vérité, c'est Dieu qui est ma fin dernière et mon but ultime, pas moi. On comprend donc que le péché mortel entraîne de soi une peine infinie, éternelle. Car il est une offense au bien infini, qui est Dieu lui-même. En péchant, je deviens le centre de mon existence, et donc je m'enferme en moi-même. Saint Thomas d'Aquin a bien perçu cette dynamique infernale du péché. En péchant une première fois, écrit-il, on s'imagine qu'on pourra ensuite s'abstenir du péché. Mais c'est tout le contraire qui arrive. Car le premier péché nous affaiblit et nous rend plus enclins au péché. Au début, on se croit assez malin pour frôler l'interdit. Rien qu'une fois, rien qu'un verre, rien qu'un clic. Mais très vite, le piège se referme. Et souvent, avec une grande violence. Car la volonté humaine est faite pour le bien infini, pour la fin ultime, pour Dieu. Péché, c'est précisément se détourner de sa fin dernière pour se porter vers un bien fini et limité, comme si c'était le bien infini. Tant que notre amour n'est pas rectifié, on devient esclave des choses que l'on aime. Tel Harpagon, l'avare de Molière, qui place tout son désir dans la possession de l'argent. Certes, il a ce qu'il veut en un sens, mais à quel prix? Il devient littéralement possédé par l'argent. Ou exemple plus éloquent, encore, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. La domination que l'anneau exerce sur lui est si profonde que Gollum en vient à perdre son identité. Il est au sens propre aliéné, autre que lui-même. C'est une bonne allégorie de ce que réalise en nous le péché. Certes, tant que je vis, je peux me convertir. Sous l'influx de la grâce, je peux regretter mon péché, m'en confesser et retrouver l'union avec Dieu par la charité. Mais avec la mort, qui consiste dans la séparation de l'âme et du corps, tout changement est impossible. L'âme est définitivement fixée dans son choix pour ou contre Dieu. Et donc l'âme qui meurt en état de péché mortel se trouve éternellement fixée dans cet état de haine de Dieu. Et c'est là la cause principale de sa souffrance. Quelles sont les souffrances de l'enfer? On distingue deux souffrances, deux peines chez les damnés, la peine du sens et la peine du don. Cette distinction n'est pas arbitraire, mais elle découle de la nature même du péché mortel. Le péché grave, on l'a vu, consiste à se détourner de Dieu, le bien infini, premier aspect, pour se tourner vers une créature, c'est-à-dire un bien fini, second aspect. La peine du don. Au fait de se détourner de Dieu correspond la peine du don, du latin damnum, qui signifie perte de Dieu. C'est la souffrance principale des âmes qui sont en enfer. En effet, l'homme a été créé pour être uni à Dieu, ce qui correspond à son désir le plus profond. Comme l'écrit saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » Le damné vit donc, au plus intime de son être, une tension permanente entre ce désir de Dieu, qui demeure inscrit dans son cœur, et sa volonté détournée éternellement de Dieu par le péché mortel. Oui, comme l'écrivait Benoît XVI, l'enfer, c'est où Dieu n'est pas. La peine du sens. Au deuxième aspect du péché, c'est-à-dire le fait de se tourner de façon désordonnée vers une créature, correspond la peine du sens. C'est ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Cette peine vient réparer le désordre provoqué par l'attachement désordonné au plaisir d'ici-bas. plus spectaculaire en un sens que la peine du Dan, elle est en fait moins profonde que cette dernière. Après la résurrection de la chair, les corps des damnés seront associés à la peine du sens. Conclusion. Chers pèlerins, voici la doctrine de l'Église concernant l'enfer. Si j'ai tenu à vous la rappeler, ce n'est pas pour créer une pastorale de la peur, mais parce que c'est la vérité, et que la vérité rend libre. La chose la plus importante à se rappeler est que l'éternité de l'enfer, ainsi que les souffrances atroces des damnés, sont en fait le revers de cette autre vérité centrale de la foi, Dieu est amour. Si Dieu est amour, on ne peut vivre en Dieu que si l'on participe de cet amour. Quand je refuse les prévenances de l'amour divin, je me mets dans un état d'auto-exclusion de la communion avec Dieu, et cette auto-exclusion peut devenir définitive si je meurs dans cet état. Alors, si votre conscience vous reproche quelque chose, peut-être ce péché que vous n'avez jamais eu la force d'avouer en confession et que vous traînez comme un boulet depuis des années. Profitez de ce pèlerinage pour aller déposer ce fardeau auprès d'un prêtre au confessionnal. Vous en tirerez une joie immense. Car si le péché mortel est un avant-goût de l'enfer, la vie de la grâce est un commencement de la joie du ciel.